Bonjour à tous, bienvenue dans Economia. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous d'information qui parle d'économie, de finances et parfois même de stupeur, puisque c'est ça que nous avons ressenti en découvrant les prévisions du FMI pour la Russie, que l'on croyait exsangue en raison de la guerre en Ukraine. Or, l'économie russe va plutôt bien. Les prévisions de croissance du FMI sont plutôt bonnes. Nous allons retrouver Arnaud Dubien à Moscou qui va nous faire le point, nous expliquer comment se fait-il que la Russie finalement s'en sorte pas si mal que ça. Ensuite, dans la seconde partie de notre émission, nous irons bien évidemment nous à la rencontre. Nous allons nous pencher vers l'axe syro-turc avec ce terrible séisme et on va s'interroger au-delà de l'aspect humain et dramatique de cette catastrophe naturelle, on va s'interroger sur les conséquences économiques qui sont tout à fait significatives pour la Turquie notamment. Et puis notre tour du monde, le Qatar qui aujourd'hui commence à investir dans le pétrole, le secteur des hydrocarbures en Irak, c'est tout à fait nouveau. On parlera récession économique mondiale ou est-ce qu'on va y échapper? Les Français pensent que oui, les Allemands aussi pensent que oui. Donc est-ce que finalement la situation n'est pas moins dramatique que l'on voudrait bien l'entendre? Et puis nous finirons avec notre question piège, avec notre invité Arnaud Dubien qui répondra à une question à laquelle il ne s'attend absolument pas. Economia, c'est parti, c'est tout de suite. Nous en parlions à l'instant. Ce qui est assez étonnant, c'est que cette Russie, dont on s'attendait à ce qu'elle subisse de plein fouet le train de sanctions qui ont été décidées après le début de la guerre en Ukraine, en fait, quand on voit les chiffres des prévisions de croissance pour 2023, ces chiffres sont positifs. Donc, direction Moscou, à la rencontre d'Arnaud Dubien, chercheur qui dirige l'observatoire franco-russe, qui connaît parfaitement bien à la fois la Russie politique et économique. Arnaud Dubien, est-ce que vous-même, qui vivez à Moscou, est-ce que vous êtes surpris de la façon dont l'économie russe, finalement, résiste plutôt bien aux événements des derniers mois, notamment aux événements ukrainiens?
Oui et non. Disons qu'on pressentait que l'ampleur du choc serait bien moindre que celle qui était prévue en Occident, que contrairement à ce qu'avait dit par exemple Bruno Le Maire, l'économie russe ne serait pas à genoux, qu'elle ne serait pas en lambeaux non plus. Ceci étant, les prévisions du FMI pour 2023 ont quand même surpris parce qu'elles sont plus optimistes à ce stade en tout cas que celles du gouvernement russe lui-même. Alors, tout ça va être corrigé, le gouvernement russe va revoir ses prévisions aussi, mais c'est quand même je dirais une divine surprise pour les autorités russes, qui s'explique par un investissement intérieur très fort.
C'est-à-dire
également par la bonne tenue des hydrocarbures, oui. Et puis par une économie qui devient une économie de guerre et qui tourne à fond.
Parce qu'il y a aussi le fait que l'économie russe, finalement, a choisi, il y a aussi une volonté politique, de choisir vraiment le rouble comme étant la monnaie d'échange à la fois, à l'échiquier national bien évidemment, mais aussi dans les relations internationales économiques. Aujourd'hui, le rouble est une monnaie qui a tout à fait raison d'exister, ce qui a considérablement aidé l'économie russe.
Oui, alors les Russes ont dû d'abord constater qu'une partie de leurs réserves avait été saisie, gelée par les Occidentaux. Les réserves de la Banque centrale libellées en dollars et en euros, environ 300 milliards, ce qui est colossal. Et évidemment, ça a accéléré la réflexion et surtout l'action de la Russie sur la voie de la dédollarisation de ces échanges. Donc, la Russie mise sur l'or, le yuan chinois, mais aussi sur le rouble, effectivement, en cherchant dans ses échanges avec certains pays dits amicaux, l'Inde et d'autres, à promouvoir l'usage des monnaies nationales. Donc le rouble est souvent la monnaie du pays concerné, afin d'éviter, encore une fois, d'avoir recours au dollar, qui était une solution finalement de facilité, mais qui a coûté cher à la Russie.
Mais qu'est-ce qu'elles sont devenues toutes ces entreprises qui, donc quelques jours après le début de la guerre, nous expliquaient « nous claquons la porte, nous partons, c'est fini ». Alors d'aucuns, entre les lignes, nous laissaient entendre quand même qu'il laissait un peu de monde là-bas pour que l'appareil industriel ne finisse pas entre les mains des Russes et qu'ils en soient les heureux propriétaires. Mais toutes ces entreprises qui ont dit « on s'en va », qu'est-ce qui s'est passé après? Elles ont été remplacées, pas remplacées, et ça s'est passé comment?
Alors, il y a différents cas de figure, il y en a même beaucoup. D'abord, il y a peu d'entreprises qui ont dit d'emblée qu'elles allaient partir, en tout cas s'agissant des entreprises françaises. Je rappelle que la France était et reste présente économiquement en Russie. La France est un des principaux investisseurs étrangers. Et donc les entreprises françaises y étaient et y sont encore bien présentes. Il y a plusieurs cas de figure. Tout dépend évidemment des, je dirais, des modèles économiques. Est-ce que les entreprises produisaient sur place ou pas, ou importaient essentiellement leurs produits. Il y a également une grande diversité sectorielle. Est-ce que le secteur en question est frappé ou pas par les sanctions occidentales? Il y a aussi je dirais, le type de propriété, le type d'entreprise. On voit que les entreprises familiales, grandes entreprises ou PME, PMI, en d'autres termes, qui ne sont pas soumises aux contraintes de la bourse et des fonds d'investissement américains, eh bien, font plutôt le choix de rester. Donc, en réalité, il y a eu quelques départs d'entreprises françaises, hein, Renault, et pour le coup, c'était assez surprenant et ça a été un véritable choc, plutôt inattendu. On peut penser que là, pour le coup, c'est une volonté de Bercy, qui certes ne détient que 15% du capital, mais qui a un pouvoir d'impulsion. Il y a eu la Société Générale qui a vendu Rosbank, sans doute la plus mauvaise affaire de l'année parmi les entreprises françaises. Je rappelle que la Société Générale avait acheté cette banque il y a 15 ans à M. Potanin, un oligarque, qu'elle en a fait un véritable joyau et qu'elle l'a cédé pour quelques copecs.
On a parlé beaucoup, Lieutenant, donc toujours au début de la guerre, des risques de pénurie. Alors on parlait du secteur de la santé, hein, il y avait également des pénuries, mais ça c'est peut-être moins grave, sur le secteur des fast-food avec des enseignes américaines qui aspiraient à quitter le pays. Est-ce qu'il y a eu des étals vides? Est-ce qu'il y a eu des assiettes sans hamburger ou pas?
Alors, ce qui fait partie des grands fantasmes occidentaux, c'est l'un des éléments permanents et pratiquement irremplaçables du narratif occidental, les pénuries en Russie. Non, il n'y a eu aucune pénurie, aucune rupture d'approvisionnement s'agissant des deux secteurs, en tout cas, que vous évoquez, hein, la restauration et le secteur pharmaceutique et médicaments. Ce dernier n'étant d'ailleurs pas concerné par les sanctions. Alors, plusieurs choses. Hein. La Russie, d'une part, a réorganisé ses chaînes logistiques, ses circuits d'approvisionnement, en instituant en particulier les importations parallèles.
C'est-à-dire ?
L'importation parallèle, c'est une autorisation que le gouvernement donne à des agents économiques pour importer des produits, y compris des produits de grande consommation, sans forcément l'avis ou l'aval des entreprises concernées. Par exemple, ça concerne la téléphonie, ça peut concerner des biens d'équipement. Et c'est une soupape de sécurité qui fait qu'il n'y a pas eu, encore une fois, de rupture. Ça passe généralement par la Turquie, par la Géorgie, par le Kazakhstan parfois, par des pays tiers. Donc il y a une forme de renchérissement. Mais je dirais, les habitudes de consommation des Russes n'ont pas été totalement bouleversées. Il y a des évolutions, les Russes sont conscients qu'ils sont dans une période d'incertitude, donc il y a sans doute moins d'achats, je dirais,
La consommation individuelle, la consommation des ménages est moins importante, oui.
Elle est moins importante, et puis les gens font plus attention,
oui.
Mais encore une fois, il n'y a pas de grands bouleversements à ce stade.
Mais l'inflation, parce que nous l'inflation en Europe, mais aussi en Afrique et sur la zone Maghreb, l'inflation, tout le monde râle, et à juste titre, parce que, en plus, elle est duale, cette inflation. C'est-à-dire qu'il y a les chiffres officiels, il y a les chiffres officieux, ce qu'on a dans les souks, les marchés, et c'est vrai que les prix, les étiquettes ont valsé. Est-ce que ces fluctuations tarifaires, vous les avez également, alors à la fois sur les grandes villes russes, hein, mais la Russie est un continent quasiment, va-t-on dire. Je ne sais pas si d'un point de vue géographique, c'est exact de dire ça. Mais jusqu'au fin fond de la Russie, il y a des les prix sont maintenus ou les étiquettes chauffent?
Alors, les étiquettes ont chauffé au printemps dernier, pour l'essentiel, à l'été aussi. Sur l'ensemble de l'année, la hausse des prix a atteint 12%. On peut dire que c'est beaucoup.
C'est beaucoup, oui.
C'est sensible. Mais au vu des réalités russes, c'est pas tant que ça. Pourquoi? Parce que l'inflation n'est jamais vraiment descendue en dessous de 4 ou 5% ces dernières années. Et donc, Les Russes ont vu ça en 2016-2017, donc ce n'est pas tout à fait exceptionnel. Ce n'est pas le choc que peut éprouver le citoyen allemand ou français avec une inflation à 6%. Par ailleurs, l'État russe a, dans une large mesure, compensé, en tout cas en revalorisant les pensions de retraite, les salaires des fonctionnaires. Donc il y a eu un choc des prix. Ça a été plutôt bien géré et ça reste contenu. La tendance est plutôt un ralentissement de l'inflation. L'impression qui prévaut, c'est que le problème est plutôt derrière l'économie russe que devant.
Parce que là, un effort de guerre, même si effectivement il y a tout le cash flow qui est engendré par le commerce des hydrocarbures, gaz, pétrole avec la Chine et les relations que l'on sait entre Pékin et Moscou. Mais malgré tout, un effort de guerre, c'est extrêmement coûteux, c'est long, c'est permanent, c'est tous les jours, c'est aujourd'hui, ce sont des paramètres. Alors, je ne sais pas si les Russes d'ailleurs communiquent sur le coût de l'opération en Ukraine, mais est-ce qu'aujourd'hui ce sont des paramètres qui sont, je ne dirais pas intégrés, mais normalisés dans la vie économique du pays? Comment ça se passe?
Alors, il n'y a pas véritablement de chiffres, il y a évidemment un budget de la défense, on voit certaines choses, certaines tendances, mais évidemment on ne connaît pas le détail parce que c'est secret. Ce que l'on voit, c'est une augmentation des dépenses, ce qui correspond évidemment à l'opération militaire en cours. On voit un déficit budgétaire qui augmente, ouais. Même si là encore, il faut faire attention aux chiffres, hein. Il y a eu un emballement ces derniers jours en raison des chiffres de janvier, qui correspondent à des dépenses décalées et à l'inverse à des recettes qui vont rentrer en février, donc il y a un trou et beaucoup extrapolent sur le trou de janvier et on voit une tendance lourde, je dis très clairement attention. Oui, la Russie s'est réorganisée. Depuis l'automne, elle s'est organisée militairement après les déconvenues de la région de Kharkiv. Il y a eu des changements au niveau du commandement militaire. Il y a eu une mobilisation partielle. Et puis, sur le plan économique, c'est moins visible de l'extérieur, en tout cas d'Occident. Mais on voit bien que le gouvernement, la machine étatique, s'est mis en ordre de marche, en ordre de bataille, c'est le cas de le dire, avec une industrie de défense qui est forte en Russie, hein, qui ces dernières années était tournée vers l'exportation principalement, quoique pas seulement, eh bien les usines tournent pleinement et tournent en 3-8.
Et sachant que absolument, et sans faire de parallèles qui seraient historiquement faux et caricaturaux, mais c'est vrai que dans l'histoire, la Russie a toujours démontré qu'elle avait le souffle long sur les conflits et qu'elle a été capable, dans des conditions extrêmement difficiles, de lever une puissance industrielle et de se doter, on va dire, de la masse d'armement nécessaire pour inverser un rapport de force. Mais encore une fois, je veux pas de comparaison hâtive, mais c'est vrai aussi que malgré tout, et ça c'est une question qu'on a aussi du côté ouest, hein, maintenant c'est terrible, on parle de l'Est et de l'Ouest, mais aussi on se dit, est-ce que l'on a les hommes, les outillages, les investissements pour aussi fournir des chars, des munitions, des systèmes de défense antiaérien, des avions, tout ce qui fait la panoplie du soldat engagé au front? En fait, ce sont des corps de métier qui sont tous très nombreux, les uns par rapport aux autres, ils doivent corréler leur production. La Russie, c'est quand même compliqué de réveiller une industrie militaire et de dire voilà, maintenant nous sommes en guerre, ça va durer longtemps, il faut faire tourner les chaînes de production.
Je pense que c'est plus compliqué en Occident qu'en Russie, puisqu'en Russie ces chaînes elles tournaient, les choses étaient déjà plus recalibrées que chez nous, hein. Par exemple la production de munitions, on voit que c'est un réel problème en Occident, et donc pour l'Ukraine on ne sera vraisemblablement pas en situation, en capacité de leur livrer les volumes nécessaires. En revanche, de la vue générale, ce problème n'existe pas en Russie. Et c'est ce qui risque de faire la différence, hein, le rapport de force et le rapport de feu. Donc, les Russes partent de moins loin que nous, avec des systèmes qui sont finalement moins onéreux, moins compliqués. Encore une fois, il est plus facile de faire sortir du T-90 de Nijni Tagil en masse que pour l'industrie occidentale, aujourd'hui en tout cas, de remettre, de produire 10 000 obus par jour. Or, le temps, le facteur temps joue aussi. Tout le monde comprend que ça va se jouer dans les prochains mois. Si on est prêt dans 3-4 ans,
Oui, ce sera
ce
un
sera
petit
trop
peu tard.
tard.
Avec cet élément qui est assez intéressant, c'est que quand on voit ce qui se passe sur le terrain, avec somme toute une partie qui était autrefois réservée à l'aviation, c'est vrai qu'elle est assez peu occupée. Le ciel aérien est somme toute assez peu occupé. On est vraiment sur du terrain, sur de l'affrontement au sol, hein, entre hommes. C'est vraiment quelque chose d'assez. Enfin, c'est un combat somme toute assez rustique. Bon, c'est vrai que les drones sont arrivés, mais un drone, ça coûte pas cher, hein. C'est juste quatre hélices et une grenade en dessous avec une caméra pour ensuite aller communiquer sur Internet. Donc finalement, on est dans une posture de combat qui convient plutôt bien, si ce n'est à l'armée russe, en tout cas aux industries d'armement russes.
Oui, alors c'est un combat d'hommes, c'est aussi un combat d'artillerie. Hein. L'artillerie joue un rôle
Oui.
majeur. On redécouvre, on fait semblant de redécouvrir cela, et c'est très clairement un point fort de la Russie. Alors après, il ne faut pas non plus sous-estimer la sophistication. Hein. Il y a les missiles de croisière, il y a des drones, certains sont assez perfectionnés. L'aviation n'est pas totalement absente non plus. Le cyber, etc., etc. Mais in fine, vous avez raison. Cela risque de se jouer au sol. Et ce qui risque de faire la différence, c'est le nombre de chars, le nombre de fusils. La vraie question, c'est est-ce que l'Ukraine est capable de tenir encore des mois face à cette machine russe qui semble se mettre en place? Voilà la question centrale en réalité.
Mais pour ce qui est du monde des affaires et du climat général des affaires en Russie, c'est juste un cas empirique, hein, mais aujourd'hui, vous-même qui êtes donc français qui travaillez en Russie, vous êtes perçu comme un co-belligérant, comme quelqu'un, enfin comme appartenant à un pays qui est neutre, point d'interrogation, ça m'étonnerait, mais peut-être, je ne sais pas, comme un ennemi déclaré. Si demain vous êtes une entreprise française, vous voulez aller investir, je ne sais, dans l'Oural ou au bout du monde en Russie, vous pouvez le faire. Vous allez avoir des difficultés du fait que vous êtes français, allemand ou américain. Ça se passe comment?
Alors, les gens font la part des choses, d'ailleurs à tous les niveaux. Il y a un niveau de propagande. Effectivement, la France est régulièrement mentionnée dans les médias comme un État inamical, au gré en particulier des livraisons de canons César, voire d'autres systèmes. En même temps, les autorités russes font la part des choses, et les autorités russes ne souhaitent pas que les entreprises étrangères qui sont installées en Russie quittent le pays. Donc, il y a je dirais, il n'y a aucun mauvais traitement des acteurs économiques étrangers en Russie, il faut être très clair. Et de même, à un niveau strictement personnel, vous pouvez parler dans la rue en français ou en anglais, voire même en allemand, sans qu'il y ait de problème. Donc, voilà, on est dans cette situation d'un petit peu ambiguë, mais qui, aujourd'hui, n'est pas dramatique pour les Français de Russie.
Mais il y a un élément qui n'est pas présent, et on peut le comprendre parce que c'est pas le travail du FMI. Quand on a vu ces chiffres sur la croissance russe en 2023, comme vous disiez, on a tous été un petit peu surpris, mais ces chiffres n'intègrent pas, et c'est normal, cette notion, alors qui est assez puissante et forte et récurrente en Occident, qui est celle de le schéma de l'escalade avec les chars allemands qui vont arriver. Et puis aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir des livraisons de Su-35 à l'Iran avec un système de défense, un satellite militaire, des hélicoptères. Alors, effectivement, on a beaucoup. Les Israéliens aujourd'hui ont des relations qui sont extrêmement tendues avec les Iraniens qui sont sur un partenariat stratégique de défense très important avec les Russes. Donc quand on fait la somme de tout cela, on se dit, mais on va vers une escalade et on va aller vers un effort de guerre encore plus important. Est-ce que vous avez également ce ressenti-là? C'est-à-dire que ce que fut 2022 est une chose, mais 2023, ça va être pire et ça va être encore plus coûteux et encore plus engageant pour les économies qui sont consacrées à la guerre.
Peut-être, mais je crois d'abord que les analystes du FMI intègrent diverses hypothèses dans leur scénario. Bon, c'est le scénario d'un conflit qui se poursuit, qui peut-être monte en puissance, sans devenir évidemment un conflit nucléaire. Ce qui compte en réalité pour l'économie russe, on voit, ce n'est pas vraiment les sanctions, 9 paquets de sanctions, ça fait moins 2% de PIB. C'est pas négligeable, mais c'est absolument pas tragique. C'est probablement les cours du pétrole, la demande mondiale et en particulier le réveil de l'économie chinoise après le Covid. C'est ça qui compte principalement pour la Russie dans les mois qui viennent. Donc évidemment, il peut y avoir un scénario catastrophe, hein, une guerre au Moyen-Orient, un dérapage à Taïwan, trois conflits régionaux majeurs en même temps. Évidemment, dans ce cas-là, la Russie ne fera sans doute pas plus 0,3% de croissance.
Bien sûr.
Mais on peut penser que nous, on sera en zone très négative aussi. Tout le monde sera perdant.
Alors, il y a aussi un autre schéma dont on entend beaucoup, mais il faut toujours faire la part entre les thèmes qui sont journalistiquement friendly, hein, qu'on aime bien se raconter comme ça sur les plateaux de télévision, et puis ce qui est la réalité des choses. Mais c'est vrai que quand on voit aujourd'hui la façon dont les Russes redessinent leurs relations bilatérales, on a quand même le sentiment qu'il y a un tropisme asiatique au sens le plus large du terme, hein, notamment avec la Chine. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous ressentez, à savoir... D'ailleurs, Obama aussi avait dit en son temps, attention, le centre de gravité bouge, maintenant il faut tous que l'on se tourne vers l'Asie. Les Russes semblent le faire, est-ce que c'est vraiment le cas ?
Oui, je crois qu'ils sont enfin sérieux dans leurs intentions, en tout cas qu'ils mettent en... leurs actes en rapport avec leurs paroles. Oui, il y a ce tournant vers l'Est de la Russie qui a été proclamé il y a presque une dizaine d'années.
Vers la Chine, vous voulez dire ?
Essentiellement rhétorique. Oui, mais pas seulement.
Ouais, d'accord.
Disons, regardez hors Occident.
D'accord,
hors Occident. Et ça va de l'Afrique jusqu'à la Corée. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est accéléré. Qui s'est accéléré depuis le début de la guerre en Ukraine. Il y a évidemment la Chine, il y a l'Inde. C'est une divine surprise, hein, l'évolution des relations avec l'Inde. La Russie, ces dernières années, était plutôt inquiète. Elle voyait les États-Unis renforcer leur présence, les Occidentaux de façon générale, Israël sur le marché des armements. Et là, dans la difficulté, l'Inde... n'abandonne pas la Russie, elle le fait au nom de ses intérêts bien compris, hein, ses intérêts économiques en particulier, mais je pense que les Russes ne s'attendaient pas à un tel niveau de soutien et de résistance indienne aux injonctions occidentales. Mais il y a d'autres pays, on pourrait parler des Émirats Arabes Unis, bien sûr de la Turquie d'Erdogan, qui est une plateforme majeure dans le maintien des circuits économiques, logistiques, vers le monde extérieur. Ça vaut pour les liaisons aériennes. Hein, Turkish Airlines, très actif, fait de très bonnes affaires avec la Russie, mais aussi, évidemment, la logistique, etc. etc. Et de ce point de vue, d'ailleurs, les Russes sont très inquiets, ou en tout cas, ils surveillent de très près ce qui se passe en Turquie, et en particulier l'élection présidentielle prévue le 14 mai.
C'est vrai que...
Une défaite d'Erdogan, évidemment, serait une très grosse déconvenue pour Moscou.
Sachant que tous les instituts de sondage, pour l'instant, sont sur un schéma de Erdogan perdant. Mais c'est vrai aussi qu'on n'a toujours pas le nom de celui qui portera les couleurs de l'opposition en Turquie. Donc c'est encore difficile de donner un total crédit aux sondages qui sont réalisés en Turquie. Arnaud Dubien, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette première partie d'Economia. C'est tout à fait précieux de vous entendre nous parler. Témoigner comme ça depuis Moscou. On se retrouve dans la seconde partie de notre émission. On se retrouve dans quelques instants. Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia. On va bien évidemment parler du séisme qu'il y a eu sur l'axe syro-turc et notamment la Turquie, l'impact de ce drame. Nous allons en parler avec un économiste qui va pouvoir nous tirer un premier bilan, hein, au-delà de l'aspect humain, bien sûr, mais un premier bilan économique de cette catastrophe naturelle. Ensuite, nous ferons notre tour du monde des économies arabes et internationales. Enfin, notre invité Arnaud Dubien reviendra pour la question piège. La seconde partie d'Economia, ça commence tout de suite. Nous en parlions à l'instant, ce séisme avec plusieurs milliers de morts, plusieurs milliers de blessés et vraisemblablement des centaines de millions de dollars de destruction pour la Syrie, mais aussi pour la Turquie. Nous allons évoquer cela avec cet entretien que l'économiste Ahmet Insel a accordé à notre consoeur Eva Cohen. Donc un entretien sur ce qu'est aujourd'hui l'impact économique de ce drame, de cette catastrophe environnementale en Turquie.
En Turquie, ce sont donc 10 provinces qui sont touchées par le séisme de lundi. Le président Erdogan a déclaré mardi l'état d'urgence. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
Cela signifie que c'est une très très grande catastrophe. L'amplitude à l'échelle du Richter est très élevée. Et en plus, le tremblement de terre n'était pas très profond. Et c'est une destruction qui s'étale sur 10 départements, des millions de personnes qui sont touchées. Et aujourd'hui, il y a encore des milliers de personnes qui sont sous les décombres, dont on ne sait pas s'ils vont sortir vivants. Et il fait très froid. Il fait moins 2, moins 3 la nuit. Les routes se sont effondrées. Les 3 aéroports qui sont dans la région sont inutilisables, ce qui fait que l'accès des secours est difficile. Et il y a des endroits qui n'ont pas encore été secourus par des professionnels. Et c'est un tremblement de terre qui était un peu prévu par les sismologues, mais malheureusement, les pouvoirs publics ne tiennent pas compte de l'avis des sismologues et donnent des autorisations de construire sans tenir compte de ces exigences de tremblement de terre. Il y a une énorme responsabilité des pouvoirs publics.
Peut-on déjà estimer les pertes économiques liées à ce séisme pour le pays, à court terme et aussi à long terme ?
Les pertes économiques, c'est difficile à prévoir encore. Il y a plus de 6000 immeubles de plusieurs étages qui sont effondrés. Il y a 2 hôpitaux qui sont effondrés, des routes, des autoroutes construites il y a quelques années qui sont effondrées. Donc, pour le moment, il est très difficile de faire une estimation des pertes économiques, mais des pertes humaines en Turquie et en Syrie, parce que le tremblement de terre a aussi touché la Syrie. En Turquie et en Syrie, les morts sont dénombrés autour de 10 000, mais nous craignons que ce chiffre dépasse très largement 20 000, 25 000 éventuellement, quand la totalité des comptes seront enlevés. Il y a une énorme perte humaine et évidemment le temps de panser les blessures, le choc pour cette population dans cette région et la reconstruction, c'est un immense défi pour la société de Turquie.
Est-ce qu'en termes de coûts, on est sur quelque chose qui s'approcherait du séisme qui a eu lieu en 1999 ?
Alors, le séisme de 1999 était similaire, mais de l'amplitude moins élevée. Celui-ci est, selon les estimations de l'ONU, un des plus importants de tremblements de terre qui était venu sur la Terre depuis 100 ans. Donc, du coup, on peut penser que, à la fois en termes humains et en termes économiques, le coût, ça va être bien plus élevé. Et évidemment, ce sont des grandes villes de plus de 100 000 habitants qui sont touchées. Et donc, du coup, il y a une concentration de population dans ces villes. Malheureusement, on pense que ça va dépasser en termes coûts humains et coûts économiques éventuellement le tremblement de terre de 1999.
Oui, en 1999, le coût avait été estimé à la fin entre 3 et 6 milliards de dollars. Il avait aussi touché près de 40% de l'industrie turque. Est-ce que c'est aussi le cas
Alors, c'est pas l'industrie turque cette fois-ci, parce que c'est pas une zone. Il y a des industries, mais c'est pas une zone hyper industrielle. C'est plus des campagnes, des grandes villes. Il y a 4-5 grandes villes qui sont touchées. Mais évidemment, la concentration industrielle n'est pas comme celui de tremblement de terre de Izmit en 1999, où c'était vraiment la zone industrielle qui était touchée. Donc je pense que les conséquences en termes de production, en termes de destruction du tissu industriel sera moindre, mais les conséquences en termes humains risquent d'être un peu plus élevées.
On assiste aussi à une hausse des cours de pétrole, le cours de la monnaie turque a chuté, la bourse turque s'effondre. Est-ce que ce séisme va aussi peser sur le reste du monde ?
Ça, c'est très difficile de savoir actuellement. La Turquie n'est pas un producteur de pétrole, donc n'a pas de conséquences sur le prix du pétrole. La zone n'est pas une grande zone industrielle, donc ne va pas avoir de conséquences sur le commerce international. Mais sur la Turquie, effectivement, la bourse a chuté depuis lundi d'une manière phénoménale. Donc, aujourd'hui, ils ont arrêté les cotations. Le coût économique pour la Turquie va être très élevé. Après, je ne sais pas si on peut faire une projection encore fiable sur les conséquences sur l'économie mondiale, mais les conséquences sur l'économie régionale vont se faire sentir puisque cette région était une région qui fournissait aussi beaucoup de produits alimentaires, de produits de construction, etc., dans le Moyen-Orient et notamment vers la Syrie et vers l'Irak.
Et au niveau du tourisme, j'imagine aussi qu'il va y avoir un fort impact.
Évidemment.
Il y aura des gens, vous savez, la Turquie est grande, mais quand de loin, vous savez qu'il y a un tremblement de terre en Turquie, vous n'avez pas tellement envie de venir. Donc, du coup, il va y avoir aussi des conséquences en termes de tourisme cette année pour la région.
Merci à vous, Eva Cohen. Merci à Matt Insel pour ces éléments qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'est l'impact économique de cette terrible catastrophe qui a frappé à la fois la Turquie, mais aussi la Syrie. Comme chaque semaine, nous allons faire le tour du monde des économies. Et comme chaque semaine, nous allons commencer par notre monde arabe auquel nous sommes si attachés, direction l'Irak, avec cette information tout à fait importante à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue stratégique. La Basra Oil Company, compagnie irakienne, a dit qu'elle s'attendait à ce que le Qatar prenne une participation de 20 à 25% dans un projet énergétique tout à fait conséquent. Ce serait donc un événement en Irak que d'avoir des interlocuteurs économiques qataris qui soient en travail, en partage avec cette Basra Oil Company. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas commun de voir des puissances financières du Golfe intervenir en Irak, et le message stratégique politique sous-jacent, c'est vrai qu'habituellement on voit plutôt de l'argent aller en provenance soit des grandes puissances américaines, russes, ou sinon ça peut être aussi de l'argent qui peut venir d'Iran, qui veut diversifier ses engagements économiques à proximité de ses frontières, donc en Irak. Eh bien, il est tout à fait rare, donc significatif, que les Qataris entre dans ce tour de table. Ce sera considéré comme un événement financier qui méritera d'être suivi, en tout cas, voir comment demain les autorités financières du Golfe peuvent appréhender un marché comme celui que le marché irakien. L'Égypte, avec cette décision du fonds souverain de cet État égyptien, que d'investir dans deux sociétés pour des sommes tout à fait importantes, deux sociétés égyptiennes qui travaillent dans le secteur de la santé et de la pharmacie. C'est donc un investissement stratégique qui est décidé par ce fonds souverain, l'idée générale étant qu'il y a une demande de consommation de la population égyptienne sur des médicaments qui soient génériques. Alors effectivement, les Indiens savent en fabriquer, c'est une chose, mais les Égyptiens aussi peuvent en fabriquer à des prix qui sont quasi similaires. C'est donc une décision, on va dire, de conserver une activité industrielle sur le territoire national égyptien et ne pas le délocaliser, par exemple en Inde, qui a été prise. Cela s'inscrit dans cette logique aujourd'hui de l'État égyptien qui se dit que pour 2023, eh bien, il pourrait espérer prendre des points de croissance. Alors, les prévisions sont fluctuantes, mais ça, c'est normal parce que nous sommes au mois de février, donc on ne peut pas prédire. Mais l'idée générale, les autorités financières égyptiennes, ce serait d'atteindre un bon 4-5% de croissance au cours de cette année 2023. Et c'est vrai que s'il y a des décisions comme celle-ci de la part du fonds d'investissement du pays, ça ne peut qu'aider la croissance égyptienne. Cela fait plaisir pour l'Arabie Saoudite. Les entrées d'investissements étrangers directs, les fameuses IDE, eh bien, ces investissements directs ont augmenté de 10% au dernier trimestre 2022. Enfin, pour être exact, c'est 10,7%. Pourquoi c'est important? Parce que c'est vrai que souvent, l'Arabie Saoudite a eu quelques difficultés à faire venir de l'investissement étranger. Bon, l'idée générale étant que la manne pétrolière est telle que finalement, l'économie se suffit à elle-même, l'économie saoudienne, ce qui est vrai d'un point de vue strictement empirique. Maintenant, c'est un pays aussi qui a besoin de se développer. Il y a une vraie, aujourd'hui, politique de construction d'une vision de 2030, qui aujourd'hui est celle des autorités saoudiennes, avec la construction de villes, certaines qui sont absolument énormes, qui sont gigantesques, qui vont se décliner sur plusieurs dizaines de kilomètres en plein désert. Donc il y a de véritables projets à la fois d'infrastructures, également de répartition de l'outil industriel saoudien sur l'ensemble des villes du royaume. L'idée, c'est que tout ne doit pas être concentré sur la capitale, même si la capitale reste un lieu important, un pôle d'activité économique, mais il faut aussi que cela soit réparti équitablement sur l'ensemble l'ensemble du territoire. Alors ça va par exemple sur le marché des nouvelles technologies, ça va sur le marché de la communication, sur le marché de la consommation pure, hein, les produits manufacturés qui peuvent être aussi fabriqués en Arabie Saoudite. Donc voilà, on a aujourd'hui cette Arabie Saoudite qui commence à devenir un pôle d'intérêt d'investissement de gens qui se disent, bah voilà, vu que ça bouge dans ce pays, peut-être est-il bon de s'y placer en prévision de bénéfices futurs. Et puis cette querelle des chiffres qui est vraiment intéressante, on sait que l'OPEP a regretté qu'il y ait certains pays qui ne respectent pas les quotas qui sont fixés par l'OPEP, pas parmi les pays membres. Il y a l'Iran, et c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde suspecte l'Iran de vendre plus de pétrole qu'il n'est autorisé par les règles de l'OPEP, dont il est a priori signataire, hein, parce qu'en fait il a un effort de guerre à soutenir sur la zone proche-orientale et puis aussi produire de l'armement pour aider les armées russes qui sont engagées sur le front ukrainien. Or, pour répondre à cela, pour répondre à ces suspicions de dépassement de quotas de production iranien, eh bien voilà que les autorités iraniennes, le tout à fait, si ce n'est respectueux et respectable, en tout cas un institut de recherche économique qui est bien dans les clous de ce qu'est aujourd'hui le régime des mollahs, nous dit qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une baisse de la production de pétrole et de gaz iranien, que les chiffres ne sont pas ce qu'ils sont et qu'au contraire, il y a une contraction de croissance, tout ça étant bien évidemment destiné à désarimer toutes les suspicions qu'il y a sur le non-respect par Téhéran des quotas de production de l'OPEP, qui vise qu'à une chose, hein, c'est à ne pas trop faire fluctuer les prix du pétrole sur les grands cours internationaux, ce qui est tout à fait désirable et souhaité par tout le monde. Mais visiblement, les autorités iraniennes le pensent différemment. En tout cas, elles essayent de publier des chiffres pour faire croire que tout cela ne serait que mensonge ou accusation mensongère, hein, mais en fait, il s'avère qu'il y a bel et bien, de la part des autorités iraniennes, un non-respect de ces quotas de production. L'actualité internationale, l'actualité économique, avec ce chiffre qui mérite intérêt, qui est en écho à ce que nous disions tout à l'heure avec Arnaud Dubien. La France, elle aussi, prévoit une croissance pour 2023, alors qu'il sera excessivement modeste, mais quand même une croissance du PIB, du produit intérieur brut, ce qui fait que aujourd'hui, même avec 0,2% pour les trois premiers mois de l'année, on est sur un chiffre somme toute assez similaire de ce que les Allemands avaient annoncé. C'était à peu près au moment du début de l'année 2023. Les Allemands ont dit, mais a priori, on ne sera pas en récession, on va réussir à afficher des 0, quelque chose de croissance, ce qui fait que nos économies, certes, sont ralenties, certes, il y a l'inflation, certes, il y a la tension qui sont exercées par les taux directeurs des banques centrales, mais malgré tout, on n'est pas en récession et malgré tout, nos économies tournent et elles aussi s'adaptent à l'effort de guerre qui est en train de s'installer comme étant une donnée, une continuité du paysage économique tel qu'il se présente à ce jour. Nous allons en Inde maintenant, qui va bientôt devenir un pays plus peuplé que la Chine. Eh bien, l'Inde aujourd'hui, avec son premier ministre Narendra Modi, qui doit répondre de sa politique économique, qui est en fait à l'échelle du sous-continent indien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un État indien qui est absolument sommé de rembourser 1,1 milliard de dollars de prêts anticipés. C'est une décision qui vient alourdir les finances d'un État indien qui doit relever des défis de santé absolument colossaux, des défis d'infrastructure. C'est un pays immense qui est surpeuplé. Comment assurer la transition verte et par ailleurs, réussir à doter l'Inde d'une force armée qui soit tout à fait conséquente. Il y a eu des rapprochements, Arnaud Dubien l'évoquait d'ailleurs aussi tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu des rapprochements significatifs qu'il y a entre la Russie et le régime indien pour essayer de travailler ensemble et essayer d'apporter de la richesse mutuellement à leurs économies respectives. Et juste d'un mot, on reste dans la zone avec le Sri Lanka qui est donc cette île qui s'est séparée de la péninsule indienne. Eh bien, c'est simple, la situation des comptes d'État est absolument catastrophique. On va sur la faillite d'ici 2026 et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est tout simplement le président qui annonce qu'il estime que d'ici donc 3 ans, il ne sera plus en capacité de faire tourner les comptes de l'État. Alors c'est bien évidemment une déclaration qui est un petit peu spectaculaire, qui est là pour attirer l'attention des Sri Lankais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie sri lankaise est en immense souffrance, notamment en raison de la baisse de ses recettes liées au tourisme. C'est une île qui avait beaucoup d'importations de devises grâce à son spectacle naturel, qui est le sien. C'est une île qui est assez magnifique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de touristes au Sri Lanka. Et puis, il y a toujours la problématique des ressources. Et encore une île qui est traumatisée par les sécessions qui avaient été tentées par les armes, par les tigres tamouls. Donc voilà, aujourd'hui, le Sri Lanka est en situation de grande précarité économique. Le discours de Biden, du président américain, à l'occasion du discours de l'État de l'Union, tout à fait important, rendez-vous politique à Washington, avec ces éléments d'intérêt qui ont été notés par les Européens concernant l'économie verte que le président Biden veut promouvoir, le Made in America, des entreprises vertes, des entreprises qui sont tournées vers la défense du climat, vers le développement durable et vers l'usage d'énergie propre et le moins possible polluante. Il y a aujourd'hui une volonté qui est exprimée par les Américains, en tout cas par le locataire de la Maison Blanche, qui songe toujours, malgré ses 80 ans, à se représenter à une élection présidentielle, mais sachant qu'il a dit que sa décision n'était pas encore totalement arrêtée. En tout cas, voilà ce président Biden qui nous parle d'un plan climat qui prévoit 370 milliards d'investissements en faveur de la lutte contre le changement climatique. C'est tout à fait considérable. Alors, c'est de l'argent qui profitera essentiellement aux entreprises américaines qui devront travailler, par exemple, sur des batteries électriques, sur des panneaux solaires. Il y a des zones qui sont très riches en soleil sur la zone Amérique Nord. Maintenant, il faut que tout ça se mette en place et que donc l'Amérique réussisse à aller jusqu'au bout de la promesse qui a été formulée par le président Biden pour une Amérique qui soit 100% Made in, donc America, mais ça c'est normal, en faveur de l'énergie verte et de l'économie verte. Arnaud Dubien, merci beaucoup d'être resté avec nous. Et vous savez, c'est une question un peu rituelle, une question piège, un si et si le monde changeait et si soudainement Arnaud Dubien vous disiez bah écoutez, voilà, je vis en Russie et je me dis que malgré le contexte qui est le mien, le contexte du pays, la guerre, tout ce que vous nous avez dit durant la première partie d'Economia, aujourd'hui, si vous deviez créer une entreprise, si vous deviez travailler avec, faire de l'import-export, est-ce que vous obstineriez à travailler avec l'Occident, et pourquoi pas avec les États-Unis, parce que ça reste malgré tout un marché porteur, ou est-ce que vous tourneriez délibérément vers l'Asie, ou, autre possibilité, est-ce que vous oseriez panacher vos relations économiques avec à la fois l'Asie, mais aussi avec le bloc occidental? Si vous montiez une entreprise en Russie, avec qui oseriez-vous ou pourriez-vous travailler?
Disons que la question, il y a deux façons de l'envisager, oui. Soit pour un occidental à Moscou, ce qui est un cas assez marginal, soit pour un acteur économique russe. Je pense que le plus important, c'est évidemment d'imaginer la position, le ressenti des acteurs économiques russes.
Oui.
Un russe aujourd'hui qui veut créer une entreprise, est-ce qu'il le fait ou est-ce qu'il quitte la Russie? Et quels sont ses marchés? Là encore, il n'y a pas de réponse type, tout dépend du secteur dans lequel vous évoluez, mais il y a quand même une tendance forte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lancer une affaire avec pour partenaire des Occidentaux, ce n'est sans doute pas le plus simple.
Oui, c'est compliqué.
Aujourd'hui, en tout cas, pourquoi? Parce que, en particulier, les circuits logistiques et bancaires sont très dégradés. Il n'est pas facile de faire transférer de l'argent directement. Alors, ça existe, encore une fois, il y a encore des banques occidentales qui sont présentes en Russie, notamment Raiffeisen, autrichienne, mais ce n'est pas la seule. Mais très clairement, c'est mal vu des deux côtés.
Hein.
C'est mal vu en Occident, où les banques occidentales font tout pour compliquer les choses. Donc, il y a très clairement, en tout cas, une tendance
de
l'État russe à favoriser les échanges avec le Grand Sud. Encore une fois, ça va de l'Afrique, Afrique avec laquelle la Russie va organiser son deuxième sommet fin juillet, au Moyen-Orient, et jusqu'à l'Asie, là encore au sens très large du terme, avec évidemment une prédilection pour les pays dits amicaux, c'est-à-dire les pays qui n'ont pas pris de sanctions contre la Russie. Et il y en a beaucoup en réalité. Donc on voit se multiplier les initiatives, les délégations russes vers ces pays, mais on voit aussi des délégations évidemment iraniennes, pakistanaises, vietnamiennes, sud-africaines, qui se rendent en Russie pour envisager des pistes de coopération. Donc il y a un moment, je dirais, Grand Sud. La question en politique comme en économie, c'est de savoir dans quelle mesure les évolutions actuelles sont pérennes, dans quelle mesure les choses sont irréversibles ou pas. De façon générale, l'histoire nous dit que rien n'est définitif.
Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Arnaud Dubien, et c'est aussi quelque chose qu'on ressentait à travers ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que quand vous dites Grand Sud, en fait, nous, côté occidental, tout de suite, on percute sur le mot Chine. Et vous, en fait, la Chine, ce n'est pas le mot qui vous vient en premier. C'est-à-dire que vous allez évoquer, effectivement, l'Asie centrale, vous allez évoquer le monde arabo-musulman, vous allez évoquer l'Afrique, parler de l'Inde. Et comme si la Chine était finalement, n'était pas la priorité des priorités. Dites-moi si je me trompe.
Non, c'est le premier partenaire économique de la Russie, avec un commerce bilatéral qui va atteindre pour la première fois les 200 milliards de dollars. Ouais. Donc c'est très significatif, mais la Russie veille à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Elle essaie de multiplier les partenariats, de regarder partout, y compris effectivement les opportunités qui paraissaient périphériques ou secondaires jusqu'à présent. Alors tout n'aboutira pas, tout ne sera pas très intéressant. La Chine reste une valeur sûre, une valeur politique, économique, diplomatique, une très grande valeur pour la Russie, mais très clairement, le tournant vers l'Est ou le Grand Sud ne se résume pas à la relation russo-chinoise.
Une toute petite question pour une toute petite réponse. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à échapper au schéma du pire, je crois à peu près pour tout le monde, hein, Est-Ouest, et c'est retomber avec revenir aux affres du monde bipolaire, ces deux grands secteurs qui se faisaient face avec une fracture au milieu. On va réussir à échapper à ce retour, le mot n'est pas très agréable, de la guerre froide. Est-ce qu'on y va sur la pointe des pieds et à pas de velours?
Alors, on va revenir à une logique de bloc, on le voit, avec un Occident de plus en plus resserré sur lui-même, avec les États-Unis de plus en plus forts, et les velléités d'autonomie stratégique de l'Europe qui sont éteintes sans doute pour longtemps. Une Russie, on peut le penser, qui va se détourner de l'Occident pour quelque temps. Mais les grandes lignes de fracture, elles ne se dessinent plus simplement autour de l'Europe occidentale, des États-Unis et de la Russie. Les autres blocs, c'est la Chine, c'est éventuellement d'autres pays. Donc ce ne sera pas bipolaire, ce sera multipolaire, et avec effectivement des logiques de blocs de plus en plus prononcées et des risques géopolitiques, militaires, de plus en plus concrets, malheureusement.
Merci mille fois, Arnaud Dubien, d'avoir été avec nous depuis Moscou. Merci pour cet éclairage. On se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. On reviendra vers vous parce que c'est vraiment tout à fait passionnant que d'avoir ces éléments qui nous amènent à nuancer notre grille de lecture de ce monde tel qu'il est et qui est aujourd'hui un peu haché par les propagandes de part et d'autre. Et donc voilà, ce sont des éléments qui sont tout à fait importants. Mille merci. À très bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale.